Éphésiens chapitre 6. On va parler aujourd'hui, le message, notre source d'espérance pour le combat spirituel. Le thème du mois de juillet, c'est notre source d'espérance. C'est Jésus, notre source de tout. Et le thème de juillet, c'est notre source d'espérance. Et on va voir comment il est notre source d'espérance pour le combat spirituel. Les armes de Dieu, l'armure de Dieu. On va lire, juste pour commencer, on a lu le chapitre en complet, mais on va lire juste verset 10. 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessous tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et la paix de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est évident, on ne peut pas ignorer qu'il y a une guerre spirituelle qui ne va jamais cesser. C'est pour tous les chrétiens, c'est même juste, pas juste pour les chrétiens, parce que Satan ne veut pas que les hommes soient sauvés. Alors la guerre spirituelle, c'est vraiment autour dans le monde. Mais pour les chrétiens, Satan ne va jamais cesser de nous attaquer. C'est pas comme il va, comme Pasteur a dit, il ne va pas prendre congé de ses attaques. Oh, cet chrétien, il est trop fort, je ne peux pas essayer de le trébucher encore. Non, la guerre spirituelle, c'est toujours là. En Pierre 5, verset 8 à 9, ça dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Les mêmes souffrances, ça dit, personnellement, le diable est là, mais les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est à tous les chrétiens, la guerre spirituelle. Soit les tentations, les découragements, les mensonges, tout ce qui nous rend incapables dans nos vies chrétiennes, des tromperies de Satan. Ces attaques peuvent être des sortes comme ça, les tentations. Et souvent, pasteur dit souvent, les péchés, c'est quoi? C'est de combler nos désirs dans un sens illégitime, un besoin légitime dans une façon illégitime. Des fois, c'est une tentation qui vient comme un mensonge. Puis on tombe, on cède à la péché. Ça nous rend découragés. Ça nous rend incapables dans le service de Dieu. Les attaques spirituelles qui sont partout. Mais ça dit ici dans notre texte, verset 11, « Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ça me dit que c'est possible de résister le diable. C'est possible d'avoir de la victoire. On a chanté, puis on va voir le verset plus tôt. C'est quoi notre victoire? C'est la foi. La foi est la victoire. Il est possible d'avoir victoire dans le combat spirituel. Et on va voir notre espérance dedans. Mais d'abord, je veux demander juste une question. C'est quoi l'idée de l'armure? Parce qu'on parle de l'armure, les armes de Dieu. Et souvent, c'est prêcher l'armure de Dieu comme les œuvres de la chair. Oh, il faut mettre l'armure de Dieu. Il faut tenir ferme. Il faut essayer plus fort. Mais comme on est en train d'apprendre ici, en tant qu'Église, ça, ce n'est pas la vie chrétienne d'essayer plus fort dans nos mains, dans nous-mêmes, d'essayer plus fort. OK, revêtez-vous de l'armure de Dieu. Mais c'est quoi l'idée de l'armure? Lorsque je porte de l'armure, je me confie en elle. Je peux me reposer sur sa protection. Si je porte un casque, une cuirasse, Un bouclier, c'est pas... Okay, j'essaie avec le bouclier de lutter contre ses forces. C'est la confiance de... Je peux me reposer derrière un bouclier. C'est pas moi qui me protège, c'est le bouclier. Alors, il faut pas que j'essaie plus fort dans ma force avec l'amour. Et avec l'amour de Dieu, c'est la même chose. C'est pas, ok, essaie plus fort. Revêtez l'amour de Dieu, il faut faire plus. Non, c'est de reposer en Jésus. Et on va voir ça aujourd'hui. Mais il y a une condition préalable pour versets 10 à 18. C'est en verset 18 de chapitre 5. Une condition préalable pour la guerre spirituelle, c'est d'être rempli de l'Esprit. Ça dit en verset 18 de Éphésiens 5. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Et vraiment, tous les versets, même au fin de chapitre 6, ça explique la vie d'un chrétien rempli de l'Esprit. Ça parle de la vie, les femmes, les maris, et les enfants, les employés, chapitre 6. Mais c'est l'idée qu'on ne peut pas arriver à la guerre spirituelle sans le remplissage de l'Esprit. Si je ne suis pas rempli de l'Esprit et je me rends à la guerre spirituelle, ok, il faut que je mette l'armure de Dieu, mais je ne suis pas rempli de l'Esprit. La condition préalable, c'est d'être rempli de l'Esprit. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire d'être rempli de l'Esprit? On en parle beaucoup ici dans l'Église. D'être rempli de l'Esprit. Et souvent, on dit d'être sous le contrôle de l'Esprit. Mais je pense que, oui, c'est ça, mais je pense que c'est plus le résultat d'être rempli de l'Esprit qui nous contrôle. Je pense que le remplissage... Est-ce qu'on dit remplissage ou remplissement? Remplissage. OK, je pense que c'est ça. Je suis content que tout le monde peut me comprendre, même si je ne dis pas les bons mots. C'est Dieu qui prêche, quand même. Mais le remplissage de l'Esprit, c'est lorsque l'Esprit a la prééminence dans ma vie. Ça, c'est le remplissage de l'Esprit. Quand je donne à lui la prééminence. Et le résultat de ça, c'est que je sois sous le contrôle de l'Esprit. C'est l'Esprit qui va me contrôler, parce que c'est Christ qui vit en moi, Galates 2:20. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est le résultat d'être rempli de l'Esprit. Mais comment est-ce qu'on puisse être rempli de l'Esprit? Est-ce qu'il y a une formule, une réponse pour tout le monde? Mais non. Et je dis premièrement, on peut simplement demander, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit. Mais aussi, c'est intéressant parce que oui, il n'y a pas une formule en tant que telle pour être rempli de l'Esprit. Fais ça, puis... Mais on est rempli de ce que l'on prend. Et l'idée de ça, c'est si je prends de l'eau, si je bois de l'eau, je ne vais pas être rempli de café. Si je ne bois pas du café. Mais c'est bon d'être rempli de café quand même. Mais l'idée que si je ne bois pas de l'eau, je ne vais pas être rempli de l'eau. On veut être rempli de l'Esprit. Mais je pense que oui, il faut juste demander à Dieu. Mais si on demande, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit, mais je ne lis jamais ma Bible. Je ne prie jamais. J'écoute la musique du monde. Je fais n'importe quoi. Je ne soucie pas de Dieu. Et je demande, remplis-moi. Pensez-vous que je sois rempli de l'Esprit? On est rempli de ce que l'on prend. Mais ce n'est pas une formule parce que, oh, t'as lu un chapitre de la Bible, il faut lire deux chapitres pour être rempli de l'Esprit. C'est pas ça, c'est pas une formule, c'est pas une réponse à suivre, mais c'est simplement qu'est-ce qui a la prééminence dans ma vie? Est-ce que c'est Dieu? C'est l'Esprit? Ça, c'est d'être rempli de l'Esprit, d'être sous son contrôle. Et ça, c'est une condition préalable pour la guerre spirituelle. Si j'arrive à la guerre spirituelle, Éphésiens 6, 10, verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, mais je ne suis pas rempli de l'Esprit. » Oh, il faut que j'essaie dans ma force. Ça ne marche pas. Alors, on va considérer trois aspects de la guerre spirituelle dans lesquels on peut trouver notre espérance. On va commencer avec, avec prière aujourd'hui. Seigneur, on te remercie vraiment pour aujourd'hui, pour cette occasion d'être dans ta maison, d'être dans ta parole. Et Seigneur, je prie que tu puisses parler à nos cœurs à travers ta parole, ces vérités. Ce sont tes vérités. Et Seigneur, je te remercie pour ces vérités vivantes qui nous donnent espérance en toi. Et je te remercie au nom de Jésus. Amen.
Amen.
On va voir premièrement notre espérance de dépendre de sa puissance. Dépendre de sa puissance. Ça dit en verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur. » Et le langage est plus précis de dire « Soyez forts dans le Seigneur. » Ça, c'est l'idée. C'est pas de « Nous devons nous fortifier. » Mais c'est juste, c'est plus, on dit, c'est pas prescriptif, c'est plus descriptif. Parce que lorsqu'on est rempli de l'Esprit, on est fort dans le Seigneur. Soyez fort dans le Seigneur, parce que c'est pas notre propre puissance. Il est notre puissance. C'est pas nous autres qui devons essayer plus fort, c'est lui. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 et 4. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » C'est Dieu, Jésus, qui vit en nous. C'est sa puissance. Et ça dit simplement, « Soyez fort dans le Seigneur. Étant rempli de l'Esprit, soyez fort. » Vivez comment vous êtes. Et on va voir ça un peu plus précisément plus tard. Éphésiens 3, des belles versets. On connaît bien verset 20 à lui qui peut faire au-delà. Mais avant ça, verset 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est sa puissance. C'est sa force. Et vraiment, la vraie puissance, la vraie force, c'est contrôle. Et je vais expliquer avec ça. J'ai lu une phrase qui disait en fois, on ne peut pas vraiment se dire pacifique si l'on n'est pas capable d'une grande violence. Si l'on n'est pas capable de violence, on n'est pas pacifique, on est inoffensif. Tout ça, c'est pas exactement la même idée, mais je vais l'utiliser pour illustrer l'autre point. Si je peux pas blesser quelqu'un, je suis pas pacifique, je suis inoffensif, je peux pas faire n'importe quoi. Mais aussi dans le sens de puissance, si je suis fort, je peux briser un mur, je peux briser n'importe quoi, je suis fort, je suis le plus fort homme dans le monde, mais je n'ai pas contrôle de cette force. Je ne suis pas vraiment fort. La vraie force, c'est d'avoir la puissance, mais de la contrôler, de la garder sous contrôle. Ça, c'est la puissance la plus forte, de contrôler. Mais ça, je parle physiquement, mais spirituellement, c'est quoi notre contrôle? C'est d'être sous le contrôle de Dieu. Ça, c'est la vraie puissance. Nous sommes forts dans le Seigneur lorsque nous sommes sous le contrôle de son esprit. Les chrétiens, le plus fort, sont des chrétiens qui sont contrôlés par le Saint-Esprit. On parle de « Oh, ça c'est un chrétien fort ». Mais c'est quoi? C'est quoi cette puissance, cette force? C'est l'Esprit à travers nous. C'est l'espérance de dépendre de sa puissance dans la guerre spirituelle. 2 Corinthiens 12, Paul, il parle de sa faiblesse. et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ça, c'est un bon mot français. Trois fois, j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et dans la guerre spirituelle, quand Satan nous attaque, les êtres spirituels du malin, c'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire que lorsque je suis sous le contrôle du Saint-Esprit, c'est lui qui est fort en moi. J'ai rien à craindre. J'ai entendu une phrase, c'est intéressant parce que nous avons le Saint-Esprit qui demeure en nous éternellement. Lorsque nous arriverons au ciel et que nous demanderons à Moïse ce que cela lui a fait de traverser la mer Rouge, ou à David, ce que cela lui a fait de tuer Goliath, ils se tourneront vers nous et nous demanderons, qu'est-ce que cela vous a fait d'avoir le Saint-Esprit lui-même vivant en vous? Ça, c'était pour nous autres, les chrétiens de le Nouveau Testament. C'était après Jésus et ascendu au ciel qui a envoyé le Saint-Esprit pour demeurer en lui. David, il ne savait pas ça. Moïse, tous les chrétiens de l'Ancien Testament n'avaient pas le Saint-Esprit en lui. Ça, c'est notre puissance. Ça, c'est notre force. Ça, c'est une bénédiction de dépendre de sa puissance. Oh, que j'aime les illustrations avec les enfants. Et tel qu'on a reçu de pasteur récemment, c'était bon, c'était mieux avec la vidéo aussi, parce que souvent avec l'audio, on ne peut pas voir Pasteur Roy comme ça. Mais c'est du fun. Mais en tout cas, lorsqu'on va à la plage, souvent avec Lydia, elle aime aller à la plage, elle aime aller dans l'eau. Le mot au Québec, se baigner dans l'eau, on dit ça. Elle porte son gilet de sauvetage. Et souvent, elle est contente de marcher dans les eaux moins profondes. Mais quand je le prends dans mes bras pour marcher dans les eaux plus profondes, elle s'accroche à moi un peu plus. Mais souvent, je veux elle enseigner de flotter dans l'eau, parce que c'est bon de pas s'enfoncer dans l'eau. Mais avec un gilet sauvetage, on est sauve. On va pas s'enfoncer avec ça. Mais je l'ai mis sur son dos. Mais souvent, elle aime pas ça. Elle va se tourner pour supporter elle-même. Mais quand elle essaie dans ses forces, ça marche pas. Quand elle se couche dans l'eau, mais elle veut tourner pour supporter elle-même, elle va pas flotter. Il faut se reposer avec le gilet de sauvetage. Et ça, c'est pour nous autres, en tant que chrétiens, avec le Seigneur. Il faut pas essayer dans nos forces d'être plus fort dans le Seigneur. C'est d'être rempli de l'Esprit, de laisser lui vivre en nous. Et ça, c'est réconfortant. Ça donne de l'espérance de dépendre de sa puissance. Mais aussi, en verset 12, ça dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce ne sont pas bons. Mais si ce sont des ennemis spirituels, nous ne pouvons pas en nos propres forces lutter. Pensez-y. Spirituellement parlant, nous n'avons rien. Sans Christ, nous étions morts spirituellement. Et le seul bien spirituellement en nous, c'est Jésus. Il est le seul bien spirituellement en nous. En nous-mêmes, on n'a rien qui est bon spirituellement. C'est sa vie. Alors, si la guerre est spirituelle et il est le seul spirituellement qui est bon en nous, ce n'est qu'en sa puissance qu'on peut même espérer de lutter. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, nous pouvons lutter contre ça en nous-mêmes parce que nous étions morts sans Christ et c'est juste, c'est seulement Christ qui est bon en nous. Mais l'espérance de dépendre de sa puissance. Et c'est donc que la Bible nous dit de prendre ses armes. Ça dit, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » C'est de lui. Verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. » Quand c'est de lui, c'est puissant en lui, en sa force toute puissante. Et ça, c'est notre espérance, de dépendre de sa puissance. Mais aussi, nous avons l'espérance d'accepter ses provisions. Ça dit, revêtez-vous, prenez toutes les armes de Dieu. Et je pense que l'idée là, c'est pas nécessairement d'essayer plus fort de porter les armes de Dieu. Oh, il faut que je mette ça. C'est plus l'idée de juste accepter ce que Dieu nous a déjà donné. C'est Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça l'idée. De revêtez-vous, de prendre toutes les armes de Dieu, c'est juste de repenser à ce qui est vrai déjà. De repenser à qui nous sommes en Jésus. C'est pas un effort d'essayer plus fort de porter les armes de Dieu. Ok, il faut que je me concentre là-dessus, je dois porter les armes de Dieu. Non, c'est juste, je vais considérer ce qui est vrai. On va voir ça à travers toute l'équipe de l'armure de Dieu. Mais ça dit, afin de pouvoir tenir ferme. Et il dit ça, mais puis en verset 14, ça dit, tenez donc ferme. L'idée, c'est que on peut pas tenir ferme sans l'armure. Après, quand on accepte l'armure de Dieu, on peut tenir ferme. Puis ça dit, tenez donc ferme. C'est pas prescriptif, il faut que tu fasses ça. C'est comme, vous avez ça. Vous avez l'armure de Dieu. Tenez donc ferme. Appropriez ce qui est vrai. Et on va voir ça parce que premièrement, ça dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et encore, le langage, c'est l'idée de ayant à vos reins. Ça dit, tenez ferme, ayant à vos reins la vérité. C'est pas, il faut que vous mettiez ta ceinture. Non, vous avez la ceinture. Tenez donc ferme. La vérité. Souvent, quand quelqu'un prêche, on dit, oh, la vérité, on a la vérité ici. C'est vrai, oui. Mais c'est pas juste une vérité froide. Oh, j'ai la vérité là, amen. Qu'est-ce que la Bible dit de nous autres? De qui Jésus est, de qui Dieu est, de ce que Dieu a fait de nous, les vérités qu'on a apprises à travers les deux années dernières, les deux dernières années, les vérités de qui nous sommes en Jésus, cette vérité, repensez à cette vérité, qui Jésus est, nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes des saints en Jésus, acceptés, aimés. Ça, c'est la vérité, c'est pas juste, oh, la Bible, mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Ça, c'est la vérité. Pour un soldat romain, c'était la ceinture qui tenait ensemble toute l'armure. Ça gardait tout secure pour donner un mouvement libre. Parce que ça gardait tous ensemble. C'était comme le manteau dans l'hiver qui nous gardait tous pour donner le mouvement libre. Mais il y a des histoires qui sont drôles dans le monde. J'ai entendu une fois, c'était un voleur. Il a volé quelque chose, mais il ne portait pas son ceinture. En courant des policiers, ses pantalons sont tombés à terre, il a trébuché. Les polices l'ont attrapé. Il n'y avait pas la ceinture, il n'y avait pas le mouvement libre pour courir. Et ça, c'est l'idée pour nous en tant que soldats, en tant que dans l'armée de Dieu, d'avoir la vérité qui nous garde. Je suis ferme dans la vérité. Dieu m'aime. Je suis en Christ. Christ est dans moi. De quoi craindrai-je? J'ai la vérité qui me donne le mouvement libre. Je suis libre dans Dieu. La vérité va vous tenir ensemble. Et repensez à la vérité. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ça, c'est l'idée. Pense à la vérité. Repensez à la vérité. Si l'on connaît suffisamment bien la vérité et se concentrer sur elle, il devient facile de reconnaître les fraudes. Pour ceux qui travaillent à la banque, c'est souvent, on fait le monnaie et argent qui sont vrais. Bon, oh, ça, ce n'est pas vrai. On ne va pas étudier les counterfeits, les faux billets. Je vais étudier là. Non, on connaît effectivement la vérité. Puis on peut constater les fraudes. Et c'est pour la vie d'un chrétien. Ayez vos reins pour ceinture la vérité. Concentrez sur ce qui est vrai. Ce qui Dieu est. Qui nous sommes en Dieu. La vérité que Jésus a dit dans Jean 8. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est la vérité qui nous rend libres, qui nous garde ensemble comme une ceinture. Mais aussi, on a l'espérance d'accepter ses provisions, la vérité, ce qui est vrai, mais sa justice aussi. Ayant à vos reins la vérité pour ceinture, et aussi le langage original, c'est comme étant revêtu. C'est pas nécessairement l'idée de revêter qu'il faut que nous faisons ça, la cuirasse de la justice, mais étant revêtu de la cuirasse de la justice. On peut tenir ferme parce qu'on a déjà sa justice, pas la nôtre. Le cuirasse qui couvre le cœur, ça part vraiment de nos esprits. Et l'idée là, c'est comme nous avons la justice de Dieu. Nous sommes purs, nous ne sommes pas des pécheurs. Je suis un saint. Je suis pur, je suis parfait, parce que c'est Dieu qui habite dans mon cœur, mon esprit. Je suis revêtu de sa justice. Et lorsque Satan m'attaque, la vérité, ça me garde ensemble. Je suis protégé à cause de sa justice. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Galates 22. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. On est revêtu de la cuirasse de la justice, mais ce n'est pas la nôtre. La cuirasse de la justice, ok, c'est juste d'accepter que je suis juste en Dieu. Je suis pur en Dieu. Satan m'attaque, mais je suis assis dans les lieux célestes. Éphésiens 2, je pense. Je demeure en lui, il demeure en moi. Je suis juste. Je suis concentré sur la vérité. J'accepte ça. Et ce n'est pas d'efforcer nous-mêmes, de porter l'amour de Dieu, c'est juste de se reposer dans ce que Dieu a pourvu pour nous autres. Philippiens 3, verset 9, « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Oh, l'espérance que nous avons d'accepter sa justice que nous avons, de se reposer en lui, en sa justice. Ça dit aussi, verset 15, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » Et j'ai étudié beaucoup là-dessus parce que souvent, C'est comme la question, qu'est-ce que ça veut dire l'évangile de paix? Est-ce que c'est, ok, il faut partager l'évangile, mais dans un sens, ça c'est vrai. Mais l'armure de Christ, le combat spirituel, c'est pour nous individuellement. Il y a un aspect que c'est vrai, ok, l'évangile, il faut partager l'évangile avec quelqu'un d'autre, être victorieux dans la vie chrétienne. Mais dans un sens, peut-être, mais ça doit être plus de ça. Alors, en tant que soldat romain au combat, il était vital d'avoir des chaussures adéquates pour maintenir une assise solide. Les chaussures particulières portées par les soldats romains étaient faites d'un cuir confortable et respirant, qui leur permettait de marcher pendant des kilomètres sans souffrir. Mais c'est mieux que les chaussures qu'on porte aujourd'hui. Ils étaient également équipés de crampons métalliques sur la semelle, ce qui leur permettait de se maintenir en place et de mieux naviguer sur les terrains difficiles. Sans des bonnes chaussures ou des bons souliers, dans le bon québécois, je suis inutile. Si je veux marcher, si je veux travailler dehors, dans mes pieds, sans des souliers, sans des bas, je ne peux faire rien. Si je suis un soldat dans une bataille, in my bare feet, comment est-ce qu'on dit ça en français?
Pieds nus.
Pieds nus. Ben oui. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, un épiné! Aïe! Oh, des roches! Aïe! Oh. Puis l'ennemi m'attaque. Je suis inutile. Il faut que j'ai des bonnes chaussures pour être ferme dans mes pieds. Pour que quand les attaques viennent, je suis ferme. Je peux traverser le terrain difficile. Sans la paix, je suis inutile, spirituellement parlant. Ça dit le zèle qui donne l'évangile de paix. Si Satan peut nous attaquer pour enlever la paix, nous sommes inutiles. Satan essaie d'enlever notre paix. Il nous lance des circonstances frustrantes ou décourageantes pour tenter de voler notre paix. De toutes les choses que l'ennemi cherche à voler, tuer et détruire dans votre vie, la paix est presque toujours en tête de sa liste. Il sème intentionnellement la discorde, la division, la perturbation et le trouble à la fois en vous et autour de vous. En vous, à la fois en vous et autour de vous. Il est le seigneur du chaos et de la confusion, profitant de chaque occasion pour perturber votre sentiment de bien-être et de stabilité. Il veut que vous soyez mal à l'aise, déséquilibré, rempli d'anxiété, d'inquiétude et d'agitation, sans la paix. Mais la paix nous aide à garder les pieds sur terre et à rester ferme. L'évangile ici veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Pour nos chaussures, ce que nous donne une assise solide, nous devons approprier la bonne nouvelle de paix. On n'a rien à craindre à cause de la bonne nouvelle de la mort et résurrection de Jésus. C'est comme l'évangile par les saints. Pour me souvenir, pour rappeler souvent, je suis sauvé. Christ est mort pour moi. Il est mort pour me donner la vie, pour restaurer la paix. Je suis en communion avec lui. Et là, je reste ferme contre les attaques de Satan. De l'évangile, pas juste pour partager l'évangile pour des autres, mais pour prêcher l'évangile à nous autres. Car Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est quand même pour nous en tant que chrétiens. Dieu m'aime. Dieu est mort pour moi. J'ai la paix en lui. Le zèle que donne l'évangile de paix. C'est nos chaussures qui nous aident à se tenir ferme. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi cherche toujours à séparer les chrétiens de la source de leur force. Il utilise parfois les mensonges pour attiser la colère contre Dieu. Il commence souvent par cultiver une fausse vision de Dieu. Les croyants commencent à croire que Dieu ne les aime pas et ne veut pas leur bien. Les mensonges, les tromperies. Oh, je ne suis pas un bon chrétien. Dieu n'est pas content avec moi. Et on a appris beaucoup les deux dernières années. Ça, c'est pas vrai. Et ça enlève notre paix de penser là-dessus. Satan a créé une caricature de Dieu, un Dieu de colère, mais pas un Dieu d'amour. Un Dieu de jugement, mais pas un Dieu de miséricorde. Mais Dieu est tout cela. Nous devons revêtir l'évangile de la paix en nous rappelant que Christ est mort pour combler le fossé que nous séparait de Dieu. Il a payé la pénalité pour nos péchés et nous a donné sa justice afin que nous puissions connaître Dieu et entrer en sa présence. L'évangile de paix nous ancre, nous donnant la confiance divine que lorsque la bataille fait rage et que le monde, l'ennemi se dresse contre nous, nous pouvons rester fermes, sachant que nous sommes sauvés et en paix avec Dieu, en paix avec Dieu, alors que tout autour de nous est dans le chaos. La paix qui nous garde. Comme ça dit dans Philippiens 4, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en lui. La paix qui surpasse toute intelligence. Le mot traduit ici par zèle, ça donne l'idée de préparation. Ça parle d'une vigilance constante. Un soldat qui n'était pas préparé pourrait jamais être victorieux. Il a dû avoir confiance dans sa stratégie et avoir les pieds solidement ancrés pour pouvoir tenir ferme lors des attaques. Et c'est pour nous d'être préparés. Le zèle que donne l'évangile de paix. Alors Satan va m'attaquer aujourd'hui. Parce qu'il ne m'aime pas. Il ne veut pas que je sois utile pour Dieu. Mais j'ai la paix en Dieu. Le zèle, la préparation de l'évangile de paix. Dieu est mort pour moi. La vérité me garde ensemble. J'ai sa justice. J'ai l'espérance dans le combat spirituel. Et les chaussures de paix que Dieu fournit à ses soldats ont deux objectifs, défensifs et offensifs. Pour nous défendre, nous devons avoir confiance en notre position en Christ. Nous devons tenir fermement dans la vérité de la parole de Dieu et la réalité de l'Évangile. Mais aussi, nous avons l'occasion de partager cette paix avec tout le monde, cette espérance avec tout le monde. Alors, nos chaussures nous aident à défendre, mais aussi d'avancer. J'ai la paix de l'Évangile, l'Évangile de paix. Je peux avancer dans la guerre spirituelle. Je peux partager avec les non-sauvés. T'as-tu espérance? Satan nous attaque. Satan attaque même les non-sauvés parce qu'il ne veut pas qu'ils soient sauvés. Mais nous avons la paix, les chaussures pour la défense, mais pour l'offense aussi. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il nous donne la paix. Aussi, verset 16. Prenez par-dessous tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi, c'est juste la confiance en Dieu. Je pense que la foi ici, c'est de mettre en œuvre tout ce qui est précédent. La confiance, c'est « je crois en la vérité. Je crois que j'ai la justice de Dieu. Je crois que j'ai la paix avec Dieu à cause de l'Évangile, à cause qu'il est mort pour moi. » Et le bouclier de la foi, c'est d'approprier ces vérités. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est juste d'appliquer ces vérités dans nos vies, de penser à ces vérités. Croyez-vous en la vérité, la justice de Dieu et en la paix qu'il vous donne par son évangile? Ayez confiance en Dieu, en ses vérités. Ça dit aussi, prenez aussi le casque du salut. C'est quoi le casque du salut? Parce que ça, c'est... Ça parle ici, souvenez-vous, d'un chrétien rempli de l'esprit. Le casque du salut, c'est pas « je vais mettre le casque du salut, je vais me sauver ». C'est pas ça. Ça parle à un chrétien qui est déjà sauvé, qui est rempli de l'esprit pour combattre en sa puissance. Mais le casque du salut, c'est pour notre tête, ou notre taille, qu'on dit québécois. C'est nos pensées, nos imaginations. Satan ne peut pas toucher nos cœurs. On a la cuirasse de la justice. On est vêtu de sa justice. On est scellé par le Saint-Esprit. Mais il peut attaquer nos pensées pour nous faire oublier toutes ces vérités. Le casque du salut. N'oubliez pas votre salut. Vous êtes sauvés par sa grâce et gardés en Jésus. Notre salut nous protège et nous devons repenser. Repenser le renouvellement de l'intelligence. Le casque du salut. Je vais garder mes pensées. Je suis sauvé. Je suis un saint. Je suis accepté dans le bien-aimé. Comme ça dit dans les psaumes, qu'est-ce que l'homme ferait à moi? Je sais pas le mot, comment dire en français. In God have I put my trust. Ah, j'oublie en anglais aussi. Mais l'idée que j'ai mis ma confiance en Dieu. Qu'est-ce que l'homme peut faire à moi? Qu'est-ce que Satan peut faire à nous? Oui, il peut nous attaquer, mais on est protégé parce qu'on a l'amour de Dieu. Il faut juste se reposer en ça. En réalité, et ça c'est intéressant, chaque pièce de notre armure constitue un aspect d'une seule chose. Parce que souvent on parle, il y a des aspects de l'armure, la ceinture, la cuirasse, le casque, le bouclier, sont tous des aspects différents, mais c'est comme tous des aspects d'une seule chose. Ça va ensemble. Mais c'est dans une seule personne. C'est qui? Jésus. Jésus est notre armure. C'est pourquoi on a chanté « Vêtu de Christ ». Revêtez-vous de Christ parce qu'il est notre armure. La ceinture de la vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin de la vérité ». Et la vie. Il est la vérité. La cuirasse de la justice, 1 Corinthiens 1, 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Jérémie 23, verset 6. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Notre paix, les chaussures, le zèle que donne l'Évangile de paix, Éphésiens 2, 14, car il est notre paix. Hébreux 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et aussi notre salut, le casque de salut, somme 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Ésaïe 12, verset 2, « Dieu est mon salut. » Quand on parle de l'armure de Dieu, oui, la vérité qui nous garde ensemble, notre ceinture, notre cuirasse, qui est la justice de Dieu, le bouclier de foi, l'évangile de paix, le casque de salut, c'est tout Jésus. Et on peut se reposer sur lui. Et ça nous donne espérance. Mais finalement, ce matin, pour terminer, on a vu notre espérance de dépendre de sa puissance, notre espérance d'accepter ses provisions, lui-même notre provision, mais aussi notre espérance de combattre avec sa parole et avec la prière. La fin du verset 17, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Nous avons à combattre, mais ce n'est pas en nos forces. C'est simplement avec la parole. Ça, c'est notre épée. Ça dit la vérité. Oui, on a vu que la Bible est la vérité. Mais aussi, c'est les vérités vivantes qu'on trouve là-dedans. Et ça, c'est notre épée. Pour combattre. On a vu dans Matthieu chapitre 4 comment Dieu était tenté. Jésus était tenté. C'était quoi ses réponses? Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit. Je prends mon épée. » Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la seule chose avec laquelle je vais combattre. La parole. Ça, c'est vrai. Alors, oui, on se tient ensemble par la vérité, mais aussi on attaque avec la vérité. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, sont puissantes. On a une épée puissante pour combattre, mais aussi la prière. Prier sans cesse, la Bible nous dit. N'inquiétez pas de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Quelqu'un a dit une fois, beaucoup de prières, beaucoup de puissance. Peu de prières, peu de puissance, mais pas de prières, pas de puissance. Notre puissance, c'est lui. Notre arme, c'est la parole et la prière. Même l'archange Michel, en Jude, verset 9, Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Nous n'avons pas de force en nous-mêmes. Mais c'est la prière qui est la dépendance de Dieu. Dans la prière, nous reconnaissons notre dépendance envers Dieu et sa puissance. Par la prière, nous nous soumettons à son contrôle, le contrôle d'être rempli de son esprit, et lui permettons de combattre pour nous. Et donc, nous avons espérance en lui pour le combat spirituel, de simplement se reposer en lui. Et à dire, je vais mettre mon focus sur la vérité, sa justice, l'évangile de paix, le salut que j'ai en Jésus. Je vais combattre avec la parole de Dieu. Et la condition préalable qu'on a vue, c'est d'être rempli de l'esprit. Si on n'est pas rempli de l'esprit, tout ce qu'on a vu, les provisions de Dieu, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, je prêche à moi. Parce que j'ai dit, on est rempli de ce que l'on prend. Si on ne lit jamais la Bible, on n'est pas rempli. Et ça, des fois, c'est difficile. Mais c'est de donner la prééminence à Dieu. Pas comme une formule. Oh, il faut que je lise ma Bible. Ça, c'est la réponse à tout. Mais vraiment, simplement d'être rempli. De donner à lui la prééminence. Avec la vérité, avec Jésus lui-même qui est notre armure, qui est notre source d'espérance pour le combat spirituel. Alors simplement, l'appel aujourd'hui, êtes-vous rempli de l'Esprit? Est-ce que vous donnez au Saint-Esprit, au Seigneur Jésus, la prééminence dans votre vie? Parce que quand les attaques de Satan viennent, si on n'est pas rempli, si on n'a pas sa force, sa puissance, la vérité, l'évangile de paix et tout ça, à partir de Jésus, êtes-vous vêtu de Jésus aujourd'hui? Ça, c'est notre espérance pour le combat spirituel. Prions. Oh, Seigneur, on te remercie vraiment pour aujourd'hui. Merci que tu te donnes toi-même comme notre provision. C'est toi, l'agneau de Dieu, qui a versé ton sang pour nous sauver, pour nous donner la paix, ta justice, ton salut. Et Seigneur, vraiment, Satan est là, il veut nous attaquer de plus en plus. Mais Seigneur, on est vêtu de toi. On a l'espérance de dépendre de toi, d'accepter toi, parce que tu donnes toi-même pour nous. Seigneur, tu m'as donné l'occasion de prêcher ces vérités, mais vraiment, je dois les approprier pour moi-même aussi. Je dois apprendre de toi comment vivre ces vérités dans ma vie. Et Seigneur, je te remercie que nous sommes tous ici en tant que ton corps, avec toi, notre tête. Et toi, tu nous guides, tu nous conduis vers toi. Merci Seigneur qu'on puisse apprendre ensemble de vivre la vie de Christ, de laisser Christ vivre en nous. Merci vraiment pour l'œuvre de grâce que tu fais ici parmi nous. Et je prie que nous pouvons continuer ensemble en unité, l'unis en toi. Fais ton œuvre ici aujourd'hui, ce matin, Seigneur. Et je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Si vous avez le désir de prier maintenant, vous avez l'occasion.